Et on commence ce journal avec un premier test clinique aux États-Unis. L'outil d'édition génétique CRISPR-Cas9 est utilisé pour traiter des cancers.
Et des chercheurs de Philadelphie sont en train de tester s'il est possible de booster les cellules immunitaires des malades du cancer. Ils ont prélevé les lymphocytes T de trois patients, respectivement atteints de myélome multiple et d'un sarcome. Avec CRISPR-Cas9, ils ont ciblé quatre gènes de ces lymphocytes T pour leur permettre de reconnaître plus efficacement les cellules tumorales. Ils ont ensuite réinjecté ces lymphocytes. Les résultats viennent de paraître dans la revue US National Library of Medicine. L'état de l'un des patients est resté stable, l'état du second s'est empiré. Il est encore trop tôt pour se prononcer pour le troisième. Marie Casté, chercheuse INSERM et dirige une équipe au Centre de Recherche de Cancérologie de Lyon. Elle parle d'une immunothérapie génie.
Effectivement, c'est un peu la nouveauté dans ces techniques, c'est qu'ils ont fait quatre modifications simultanées. En fait, quand un lymphocyte T doit éliminer une cellule qui est devenue anormale dans l'organisme, donc typiquement une cellule tumorale, cela passe par une reconnaissance entre des récepteurs qui expriment ce lymphocyte T et des étiquettes, des antigènes qui sont présentes à la surface des cellules tumorales. Et c'est ce jeu de reconnaissance entre les récepteurs du lymphocyte T et les antigènes des cellules tumorales qui conduit ou pas à l'activation du lymphocyte T et du système immunitaire et à l'élimination des cellules anormales. Ce qu'ils ont fait du coup, c'est d'une part de modifier génétiquement les lymphocytes pour qu'ils expriment un récepteur beaucoup plus puissant et beaucoup plus affin pour les antigènes tumoraux. Donc ils ont augmenté la possibilité pour ces lymphocytes de reconnaître les cellules tumorales. Et en parallèle, ils ont diminué, grâce à la technique de CRISPR-Cas9, tous les gènes qui, au contraire, bloquent la capacité de ce lymphocyte T à éliminer les cellules tumorales, puisque la cellule tumorale, elle, a la possibilité d'exprimer des étiquettes qui vont endormir en fait le lymphocyte T. Et ce qu'ils ont modifié dans ces lymphocytes T, c'est tous les récepteurs qui reconnaissent ces étiquettes, qui finalement les endorment en faisant croire aux lymphocytes T que les cellules tumorales sont des cellules normales. Donc effectivement, c'est tout à fait une immunothérapie génique.
Et on passe au bref. Dans PNAS, les physiciens viennent de déterminer la taille limite d'une particule de glace.
Quelle taille peut avoir une gouttelette avant de se stabiliser en glace? Pour résoudre ce problème du refroidissement de l'eau et pour démêler les interactions qui agissent sur la transition glace-liquide, les chercheurs de l'université de l'Utah ont mené une analyse expérimentale avec un mélange d'eau et d'argon progressivement refroidi. Ils ont analysé les signatures spectroscopiques infrarouges. Résultat, la plus petite nanogoutte d'eau dans laquelle la glace peut se former ne représente pas plus de 90 molécules d'eau, soit un dixième de la taille du plus petit virus.
Dans une nouvelle image du télescope spatial Hubble, une galaxie lointaine apparaît 12 fois en une seule image.
On voit 12 fois la galaxie de l'arc de Sunburst qui est à 11 milliards d'années-lumière de la Terre. L'image a été multipliée par un effet de lentille gravitationnelle provoqué par l'énorme masse d'un amas de galaxies qui se trouve à 4,6 milliards d'années-lumière de nous et qui plie la lumière de la galaxie derrière elle. Cette loupe cosmique permet aux astronautes d'observer des objets très lointains et en l'occurrence ici de déterminer la fraction de photons ultraviolets qui s'échappent dans le milieu intergalactique. La façon dont les photons s'échappent de l'arc de Sunburst, cela va nous aider à mieux comprendre les premiers âges du cosmos, celui de la rayonisation de l'univers qui a commencé 150 millions d'années seulement après le Big Bang. Les détails de l'étude sont à lire dans la revue Science.
Et selon une préétude paru dans Bioarchive, les bébés ont moins peur quand ils peuvent sentir l'odeur de leur mère.
Des neuroscientifiques allemands ont mené une expérience avec 76 nourrissons de 7 mois. Ils devaient regarder des images, des visages joyeux ou des visages terrifiés, hein, ce qui, on le sait, effraie les bébés. Et ce qui produit une activité électrique spécifique dans le cerveau. Cette activité électrique a été mesurée. Les bébés qui avaient avec eux un t-shirt imbibé de l'odeur de leur mère ne manifestaient pas de peur. L'équipe veut reproduire la même expérience avec l'odeur paternelle.
Et puis un mot rapide pour vous dire que c'est aujourd'hui, en ce moment même, que la planète Mercure passe devant le Soleil.
Oui, en ce moment même, en France, hein, jusqu'à 17h, jusqu'à la fin de l'émission, vous pouvez observer un minuscule point noir traverser le Soleil, soit avec des lunettes astronomiques équipées de filtres solaires, soit en direct du site de l'Observatoire de Paris.